BFM Bourse, on refait la séance.
Grâce à Emmanuel Sall, président de la Financière de la Cité, qui nous accompagne en fil rouge ce soir. Rebonsoir Emmanuel.
Bonsoir.
Franck Morel aussi, depuis Zone Bourse, les rives du lac d'Annecy, le Vénard. Bonsoir Franck, on est ravis de vous retrouver. Bronzé d'ailleurs.
Bonsoir à tous.
Oui, 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 la saison du ski nautique a démarré manifestement, Franck, sur le lac d'Annecy.
On est sous la neige encore.
Ah bon ? Eh, c'est vrai qu'il fait encore assez froid. Ne te découvre pas d'un fil. Et sur les marchés, tiens, on a cru en ce début de semaine avec la hausse, les deux hausses d'affilée, là, on avait pris 1% quand même en deux séances sur le CAC. On a cru que ça y est, on pourrait commencer à se dévêtir un peu, quoi. Voilà, effectivement, et que l'alerte des deux, trois dernières semaines était une fausse alerte. Puis ce soir, bon, on termine en petite baisse, rien de méchant, mais quand même, la dynamique est un peu interrompue, la dynamique du début de semaine. Comment est-ce qu'on voit la suite? On va vers un printemps boursier encore, la poursuite du cycle haussier, ou peut-être au contraire un atterrissage, d'après vous, Emmanuel?
Écoutez, moi, je vois pas de raisons pour lesquelles on aurait un atterrissage véritablement difficile sur les marchés. On a toujours quand même des conditions économiques et monétaires qui sont favorables, principalement aux États-Unis, on l'a déjà souligné. La Fed surveille effectivement l'inflation, mais à mon sens ne devrait pas remettre en cause son agenda de révision à la baisse de ses taux directeurs. En zone euro, la situation est un peu plus tendue et on a une croissance vraiment extrêmement, extrêmement faible, mais globalement, la plupart des entreprises européennes, on l'a déjà souligné, travaillent à l'international. Donc acheter l'Europe, c'est pas véritablement acheter la croissance européenne. Donc dans ces conditions, je ne vois pas de raison pour laquelle on ne devrait pas rester aujourd'hui investi sur les valeurs. Le fait que la bourse baisse aujourd'hui, je veux dire, c'est oui. Un épiphénomène dans l'évolution globale des marchés financiers.
Alors cette question sur nos réseaux sociaux, pour vous tous qui nous suivez sur le fil XBFM Bourse notamment, cette question qu'on vous soumet, laquelle des publications du jour suivez-vous le plus particulièrement, avec le plus d'assiduité, parce qu'elles sont nombreuses les publications, Emmanuel. Est-ce que c'est Tesla que vous suivez en priorité, vous tous qui nous suivez? Est-ce que c'est plutôt Kering, Air Liquide ou pourquoi pas Boeing? Voilà les quatre options qu'on vous soumet. Vous avez été nombreux à voter, vous Emmanuel, dans ces publications, Tesla, Kering, Air Liquide, Boeing, laquelle suivez-vous le plus?
Écoutez, je crois que ce qui se passe sur Kering, est intéressant. Au-delà de la situation de Kering, à mon avis, c'est le fait de savoir si on doit rester investi sur le secteur du luxe. Parce que Kering, effectivement, a été touché pour des raisons idiosyncratiques, comme on dit, liées essentiellement au positionnement de Gucci en Chine et à la contraction des ventes. D'autres valeurs du luxe que l'on connaît bien ont beaucoup mieux résisté du fait de leur positionnement sur le marché de détail avec Sephora, s'agissant de LVMH, et puis également sur leur positionnement beaucoup plus diversifié sur le plan géographique et sur le plan des marques. Néanmoins, la question se pose de savoir si, au sein d'un portefeuille diversifié, dans un contexte où la demande interne se réduit, se contient en Chine, en tout cas n'offre pas les mêmes perspectives que par le passé, on doit rester autant que cela qu'on a pu l'être par le passé, investi sur le secteur de luxe avec des valorisations qui quand même sont tout à fait correctes.
Oui, enfin, un peu moins pour Kering. Kering, on a regardé la capitalisation, on l'a comparé aux autres grands acteurs du luxe. Franck, en l'occurrence, la capitalisation de Kering est désormais presque deux fois inférieure à celle de Richemont, par exemple. C'est-à-dire que Kering, dans cet univers du luxe, est en train de devenir un nain, c'est beaucoup dire, mais vraiment un petit acteur. C'est une capitalisation Kering même à peu près dix fois inférieure à celle d'LVMH désormais. Et encore un repli très net ce soir pour Kering de plus de 6%. Est-ce que le marché est sévère après cette publication, d'après vous?
Le fait que le cours de Kering ait fortement baissé ces derniers mois est quand même c'est logique, puisque les estimations des analystes ont été revues à la baisse de moitié. C'est-à-dire entre ce que pensaient les analystes il y a un an et ce qu'ils pensent aujourd'hui des perspectives bénéficiaires de la société, ça a été divisé par deux. Donc vous avez un impact important évidemment sur les cours. Et la publication d'aujourd'hui implique une nouvelle dégradation, une nouvelle révision à la baisse des perspectives bénéficiaires de l'ordre de 20%. Donc vous avez encore a priori à venir de la baisse. Il va falloir que Kering arrive à démontrer d'une relance de la marque Gucci, qui est près de 50% du chiffre d'affaires de Gucci et 70% de ses profits. Donc Kering, c'est Gucci et c'est Gucci qu'il faut suivre. Donc la publication d'aujourd'hui, eh bien, elle est pas bonne et elle informe sur le fait que ça risque d'être plus long que prévu à relancer la marque Gucci, qui est clairement ce que Kering doit réussir à faire. Alors après, est-ce que ça donne des indications sur le luxe? Si on lit à travers les lignes et qu'on s'intéresse au transcript de la publication des résultats, ce qu'on observe, c'est que il y a une forte probabilité que le luxe soit de plus en plus qu'il y ait des différents positionnements au sein du luxe, et que en gros Gucci et Kering soient plutôt dans du premium que dans du luxe, et que si on devait se positionner dans le vrai luxe, à ce moment-là il faudrait carrément se diriger sur du Hermès, et peut-être que LVMH se situe du coup entre du Hermès Hermès et, et du Gucci, du Kering. Donc il y a plusieurs niveaux dans le luxe, et ce qu'on observe, c'est que les niveaux le plus élevé se porte le mieux, et que tout ce qui est finalement premium ou luxe, mais pas vraiment, ben sous-performe et est subi quand on voit que par exemple Inditex sur le low cost performe aussi. Donc en gros, il faut mieux être dans le low cost ou dans le super luxe que se positionner à peu près au milieu.
Voilà, c'est, voilà qui est dit. Et ce titre Kering ce soir, deuxième plus forte baisse du CAC, avec Eurofins qui fait encore pire, qui perd 7,7%. Là aussi, c'est une publication. Depuis son entrée dans le CAC 40, c'était il y a à peu près 3 ans, Eurofins a perdu plus de 50% depuis son entrée dans le CAC. Encore une entreprise qui, depuis qu'elle est entrée au CAC, voilà, recule, sous-performe, chute en bourse. C'est souvent la malédiction des nouveaux entrants. Et alors, pour Eurofins, cette malédiction a été importante. Ce soir, donc, publication sanctionnée à moins 8% quasiment cette valeur. Cette question aussi d'une de nos auditrices qui nous suit régulièrement. Elle s'appelle Caroline sur Air Liquide. Air Liquide a publié, c'est une valeur très détenue justement par les investisseurs particuliers. La baisse des prix du gaz entraîne du coup pour Air Liquide une baisse des facturations. Le titre ce soir, Air Liquide, Emmanuel, que vous suivez, hein, Air Liquide, vous l'aimez bien ce titre, a perdu plus de 2%. Plus de 2% de repli pour Air Liquide.
Oui, ça ne semble pas un signal absolument majeur, en tout cas pour Air Liquide. Donc c'est une valeur qui effectivement reste une valeur de fonds de portefeuille à laquelle on accorde toute notre confiance, et très fortement corrélée bien évidemment à l'activité industrielle, et notamment à l'activité industrielle également en Europe, qui montre, vous le savez, depuis plusieurs mois des signes de faiblesse, en tout cas même de récession en Allemagne. Donc c'est un sujet qu'il faut suivre. Néanmoins, ils sont arrivés à compenser la baisse des volumes par une augmentation des prix. Donc tout ça fait que on reste, disons, raisonnablement positif sur la valeur Air Liquide. En tout cas, on ne voit pas de raison aujourd'hui d'avoir un avis négatif sur les perspectives d'Air Liquide.
Sandrine du Cotentin aussi nous écrivait sur notre fil XBFM Bourse pour nous demander votre avis sur Air Liquide le premier trimestre. On a cette autre question de Julien aussi sur notre fil X. On n'avait pas prévu d'en parler, mais PepsiCo, voilà, qui a publié. On parlera de Tesla dans un instant, bien sûr, Franck, mais votre avis sur PepsiCo, que pensez-vous de cette valeur qui semble enfin remonter la pente, nous dit Julien, cet auditeur.
On est sur de la consommation non cyclique. Donc on est typiquement sur les secteurs où, lorsqu'on peut craindre que les marchés corrigent ou qu'on a le sentiment que le potentiel est restreint, c'est ce type de valeur qui se comporte bien. Quant à la publication de ce jour, bien, elle est bonne. Donc on a un début de recovery et de relance de la dynamique sur Pepsi, sur lequel on peut tout à fait être positif.
Oui, alors PepsiCo fait partie de ces valeurs, de ces sociétés qui pourraient, on verra, finir par se trouver disruptées par l'arrivée des fameux médicaments anti-obésité. On verra, bien sûr. Il se trouve que dans ces médicaments anti-obésité, il y a deux gros acteurs, mais peut-être un troisième, un trublion qui pourrait surgir, c'est Viking Therapeutics, à ne pas rater. Après la clôture de Wall Street ce soir, Viking Therapeutics va annoncer ses résultats et ses perspectives. Ce sera l'une des valeurs sur lesquelles Wall Street demain sera le plus amené à réagir, parce que les médicaments anti-obésité, vous le savez, vous qui nous suivez, c'est bien sûr une thématique transversale et qui, pour ceux qui parviennent à les produire et les fabriquer, amène évidemment un potentiel marché très très important. Donc Viking Therapeutics qui pourrait peut-être un jour finir par concurrencer, pourquoi pas, on verra, Novo Nordisk ou encore l'américain Eli Lilly. Tesla, il est temps d'en parler. Tesla gagne 13% après sa publication, l'annonce d'investissement dans l'intelligence artificielle, et puis aussi surtout le calendrier des véhicules low cost de Tesla, ce calendrier qui pourrait être amené à être avancé. Est-ce que vous avez été convaincu par le propos d'Elon Musk, le patron de Tesla, ou c'est de la com, et en bourse, la com, ben, ça marche, plus 13%. Mérité ou pas mérité, Franck?
Ah non, je pense que la publication de ce jour est très décevante. On sort en chiffre d'affaires 5% en dessous des attentes. En termes de bénéfices, on est 20% en dessous des attentes. Donc on est dans un contexte très compliqué, puisque Tesla s'est lancé dans une guerre des prix. Le but étant d'assécher la concurrence, qui a des coûts beaucoup plus importants que pour produire des véhicules. Mais on a néanmoins une concurrence féroce. Vous avez aussi des départs, des licenciements en pagaille chez Tesla. Il y a eu 3600 rappels du Cybertruck récemment. Il y a quand même pas mal de nuages qui s'amoncellent. Et quand bien même Tesla arriverait à son objectif, qui est de prendre le marché, eh bien, elle risque de le prendre au détriment de ses marges. Et donc, en tant qu'actionnaire, je ne suis pas sûr qu'il soit opportun aujourd'hui d'être positionné sur la société, sur le titre, pour la bonne et simple raison que les marges ne vont pas être bonnes, si, même si Tesla y arrive. Donc, dans ce contexte, Musk nous fait un coup de com', hein. Il nous invente des produits qui vont bientôt sortir, des humanoïdes qui seront bientôt, qui seront dès la fin de cette année dans les usines et qui seront même commercialisés immédiatement. Donc pour moi, tout ça, c'est plus un coup de com'. La société se paye 65 fois ses résultats 2024 et 40 fois les résultats de 2025 avant la révision à la baisse des analystes qui va intervenir, puisqu'on a publié 20% en dessous des attentes. Donc ça veut dire que les ratios que je viens de vous données sont 20% trop élevés. Donc avec ces niveaux de valorisation, je pense qu'on a plus, on a beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Je pense que ça peut être un terrain pour prendre des positions vendeuses sur la société.
Emmanuel, est-ce que Tesla, qui reste une valeur tech à ces niveaux de valorisation, est condamné entre guillemets à finir par perdre ce statut de valeur tech pour devenir une valeur automobile à terme classique?
Bah écoutez, Monsieur Musk essaye de nous convaincre du contraire, puisque nous a expliqué que c'était même une valeur d'intelligence artificielle. On comprend effectivement tout l'intérêt qu'il peut avoir à tenir ce discours. Non, moi je suis plus comme mon confrère, extrêmement réservé sur la stratégie industrielle de Tesla, pour toutes les raisons qui ont été indiquées, mais également en raison de la concurrence chinoise. Quand vous voyez par exemple un groupe comme Xiaomi qui a lancé récemment, vous savez, une nouvelle voiture, la SU7, avec plus de 100 000 ventes en Chine au cours des premiers jours, et avec une qualité de réalisation et surtout un prix qui vient directement concurrencer les meilleurs modèles de Tesla, notamment le modèle 3 qui vient d'être mis sur le marché. Donc je crois qu'il y a véritablement des enjeux industriels, des enjeux de marque également, des enjeux de positionnement, produit-prix, de compétitivité, comme on dit en Europe, extrêmement important pour Tesla. Donc je ne suis pas surpris effectivement des inquiétudes qui peuvent se faire jour sur le titre.
Plus 10 à Wall Street après avoir reculé de 43% quand même depuis le 1er janvier.
Tesla, puis, les plus 10 ne rattrapent pas les plus 10 sur une base qui effectivement a été revue à la baisse.
Et ce soir après bourse, Meta. Voilà, ce sera la publication de Meta. C'est celle qu'il faudra suivre avant demain soir, Alphabet et Microsoft. Mais déjà, Meta, ce soir, est-ce que vous en avez... Alors pour le coup, il y a un vrai retour en bourse là, de Meta. Le titre avait plongé, le Metaverse n'avait pas convaincu le marché. C'était il y a 2-3 ans et depuis, le titre s'est à nouveau envolé, touchant même tout récemment des plus hauts historiques. Est-ce que cette dynamique-là, vous pensez que la publication ce soir, les perspectives devraient la nourrir?
Ça dépend essentiellement de l'évolution de la publicité sur Internet, puisque c'est essentiellement là leur revenu. Personnellement, je préfère d'autres valeurs que celle-là. C'est tout ce que je peux
Franck,
considérer.
Sur Meta, ce soir, vous avez beaucoup d'espoir ou pas?
Alors on a de l'espoir d'abord et avant tout parce qu'on est positionné sur le titre à l'achat dans notre portefeuille US. Donc oui, on a beaucoup d'espoir. Et on devrait avoir de la volatilité demain sur le titre. Il y aura une information importante, c'est de savoir si le segment de la vente de publicité sur Internet, mais plus particulièrement via les réseaux sociaux, qui est vraiment le cœur de business de Meta, c'est 98% de leur chiffre d'affaires, continuera à surperformer la publicité en général sur Internet, comme par exemple celle d'Alphabet Google. Donc vous avez vraiment deux rythmes en ce moment au niveau du chiffre d'affaires publicitaire, celui de Meta où on a de la croissance et celui d'Alphabet où on est beaucoup plus, où il y a beaucoup moins de croissance et c'est beaucoup plus compliqué. Donc théoriquement la publication de ce soir devrait être bonne laisser entrevoir une poursuite de la croissance sur le segment de la pub autour des réseaux sociaux. Donc on sera effectivement intéressé aussi d'avoir plus d'informations sur la stratégie autour de l'IA, puisque Meta accélère grandement autour de l'open source et de l'intelligence artificielle. Et ça, je pense, très intéressant d'en savoir plus.
Merci beaucoup. Franck Morel, depuis les rives du lac d'Annecy, où l'on skie toujours, donc. Il y a un retour de la neige sur les Alpes en ce moment. Profitez bien, Franck. Bon ski nocturne ce soir, le président de Zone Bourse. Merci, Emmanuel.
Merci, Guillaume.
Bons embouteillages et bon retour, sinon en métro, l'un ou l'autre. Les deux, c'est pareil, c'est du bonheur. Emmanuel Salle, la financière, la cité régulièrement à nos côtés. Et le CAC 40 ce soir, qui aura donc reculé légèrement, moins 0,17%. Dans un instant, vous retrouvez Thomas Asportas, Good Evening Business, Bruno Le Maire, l'invité d'Edwige Chevrillon aussi, dans quelques instants sur BFM. Bonne soirée à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.